7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous suivons les parcours cabossés des enfants de la rue à partir d'une enquête au Burkina Faso. Bonjour Muriel Champy.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue à l'université d'Aix-Marseille et vous publiez une longue enquête qui porte sur plusieurs années, Faire jeunesse dans les rues de Ouagadougou. Ils sont plusieurs milliers en effet dans les grandes villes du pays, Ouaga, Bobo Dioulasso, mais également partout dans les villes du continent. Ces jeunes garçons viennent en général de familles brisées, ils sont livrés à eux-mêmes, marginalisés, ils commettent des vols, des agressions, ils sniffent de la colle, consomment des psychotropes. Le monde des Bakoromanes est un univers à part, c'est le terme que l'on emploie au Burkina Faso, un monde où l'on a perdu le fil de sa vie, mais où l'on se fait aussi des amis, des ennemis, où l'on apprend à survivre. Et ça questionne aussi la dimension initiatique de cette aventure. Il faut peut-être mettre des guillemets à ce mot « aventure » qui permet en tout cas de quitter le monde de l'enfance, certes d'une façon assez violente. Nous serons aussi en ligne avec Seydou Ouzidouemba, ancien Bakoromane, devenu père éducateur et très large contributeur de votre enquête, hein, Muriel Champy. Romaric Ouattara sera aussi au téléphone avec nous, ancien Bakoromane aujourd'hui dans la fanfare militaire au Burkina Faso. Simplice Ganou, réalisateur, scénariste burkinabé, a réalisé des films sur le sujet, le Koro du Bakoro, les naufragés du Faso et Bakoromane. Il a travaillé également comme éducateur auprès des enfants des rues. Et chez vous, dans votre pays, les voisines et les voisins, dites-nous quelles sont à vos yeux les solutions qui permettent à des enfants de la rue de s'en sortir. Appelez-nous si vous le souhaitez au 33 7 64 45 51 41. Je vous lis le message de Bob Muriel Champy qui a 23 ans, il est à Kinshasa, il avait envie de nous raconter son histoire. Ça n'est pas l'histoire d'un enfant de la rue, son histoire à lui. Mais il nous dit qu'il a rencontré Isaac à l'âge de 12 ans au marché, Isaac qui a perdu ses parents dans un accident de voiture. Il vivait chez son frère de 25 ans, mais il avait des problèmes, nous dit Bob, avec sa femme. Donc il est parti dans la rue. J'ai demandé à mes parents si on pouvait l'accueillir, ils ont dit oui. Et aujourd'hui, il a 15 ans, il vit toujours avec nous, je l'emmène sur le chantier où je travaille, où il gagne un petit peu d'argent. J'ai tenté de l'orienter vers une ONG, mais il a préféré rester avec moi. Il est comme un petit frère, en fait, pour moi. Je lui ai même acheté un téléphone. Mon objectif, c'est bien sûr qu'il retourne à l'école. On espère, à la rentrée. Voilà une belle histoire de solidarité aussi. On a souvent l'impression que ces solidarités, ce sont des solidarités individuelles ou d'associations ou d'ONG que les pouvoirs publics sont bien absents finalement de cette problématique des enfants de la rue, comme dépassés aussi par leur nombre. Puis il y a aussi Maurice qui est à N'Djamena, au Tchad, qui dit qu'il a été animateur communautaire dans le cadre d'un projet humanitaire d'enfants délaissés non scolarisés. Et il nous dit, par exemple, ceux qui semblent être les plus à l'aise, on les oriente vers l'école, on finance leur scolarité. Pour les autres, on leur donne de l'argent pour qu'ils puissent se débrouiller dans le petit commerce. On fait aussi venir des artistes pour leur apprendre à danser, parfois à chanter. C'est ça, notre apport modeste dans la réinsertion sociale des enfants de la rue. Voilà, vous pouvez continuer, bien sûr, de nous téléphoner 33 7 64 45 51 41 avec Muriel Champy. On va essayer de comprendre toute la complexité du problème et de ses parcours beaucoup plus riches que ce qu'on peut imaginer dans la rue.
RFI.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, j'adore l'émission.
Je suis RFI 77.
Nous sommes ensemble et nous devons marcher ensemble.
Pas de doute, on est ensemble, mais encore faut-il regarder la réalité. Ces enfants qui mendient dans la rue, souvent avec une boîte de conserve reliée par une ficelle, accrochée à l'épaule. Muriel Champy, votre livre s'appelle « Faire jeunesse dans les rues de Ouagadougou ». Pourquoi finalement vous avez choisi un titre nettement en décalage avec la perception que les citoyens ont de ces enfants de la rue, qui sont considérés au mieux comme un problème humanitaire, au pire comme une nuisance sociale ?
Alors, bonne question. Faire sa jeunesse dans les rues de Ouagadougou, en fait, c'est une expression qui a été utilisée par un des jeunes avec qui je travaillais. C'est une expression qui m'a frappée. En fait, moi, je suis arrivée pour la première fois à Ouagadougou en 2008 dans une association, un centre d'écoute pour enfants de la rue. Et j'ai découvert là-bas que ces jeunes n'ont pas présenté la rue comme un choix. Et c'est pas qu'ils disaient qu'ils voulaient rester dans la rue, parce que personne n'a envie de vivre dans la rue. Mais c'était, dans leur vision, voilà, la meilleure solution, faute de mieux.
Ouais.
Voilà.
Il n'y a pas de honte.
Enfin, en tout cas, c'est chacun se cherche. Voilà, l'expression, c'était, j'aurais pu appeler mon livre comme ça.
Recherchement, on dit.
Se chercher dans les rues de Ouagadougou.
Toutes les personnes.
Et du coup, je suis partie de là et je me suis dit, les deux registres habituels qu'on utilise pour parler de ces enfants de la rue, c'est soit le rejet, soit la pitié. Et j'ai compris que eux, c'est pas comme ça qu'ils voulaient se présenter à moi. Donc, en fait, je me suis dit, d'abord, écoutons-les. Qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils présentent leur parcours? Et c'est ce qui m'a amenée à cette formulation-là.
Toutes les personnes qui vivent dans la rue ne sont pas des bacchoromanes. Alors, quelle est la définition d'un bacchoromane, hein? Littéralement, c'est celui qui vit dans la rue. Mais ce n'est pas un mot si connu que cela?
Alors, c'est un mot qui vient du nouchi de Côte d'Ivoire. L'étymologie, impossible à savoir exactement. Mais en fait, est bacchoromane celui qui se définit comme bacchoromane. C'est effectivement un terme qui est connu des initiés, hein, principalement, et c'est déjà une façon de les repérer. Si on ne connaît pas le mot, c'est qu'on n'est pas bacchoromane. Mmh. Et en fait, être bacchoromane, c'est s'identifier comme tel, fréquenter principalement d'autres bacchoromanes. Et par exemple, les talibés, enfin les élèves coraniques qui peuvent ressembler aux bacchoromanes, ils portent la même boîte de conserve, mais ce ne sont pas des bacchoromanes, même si ils mendient également, qu'ils dorment parfois dans la rue, hein, aussi. Mais ils n'ont pas le même mode de vie. C'est-à-dire qu'il y a une idée quand même de marginalité et de déviance associée aux bacchoro.
Oui. Même si le bacchoromane a pu commencer comme talibé et ensuite prendre la fuite pour rester définitivement, en tout cas dans le monde de la rue.
Peut-être le fait qu'être bacchoromane, c'est de ne pas être sous l'autorité d'un adulte, ou en tout cas d'être quelque part son propre patron.
Ce phénomène n'est pas spécifique au Burkina. D'ailleurs, vous le disiez, le mot vient du Mnouchi, en Côte d'Ivoire. Souleymane nous dit à Abidjan, on trouve des bacchoromanes en Côte d'Ivoire. Des jeunes quittent les zones rurales croyant pouvoir mieux vivre en ville où ils n'ont personne. Il y a aussi les problèmes conjugaux des parents, la polygamie, le besoin d'indépendance et de liberté que vous citiez justement, Muriel, de certains jeunes qui amènent à la rue. On parle aussi des microbes en Côte d'Ivoire. On parle des enfants sorciers en RDC. Est-ce que tout ça, ce sont des réalités très différentes parce que des pays différents où ça il y a des points communs?
Il y a évidemment des points communs, au moins dans le mode de vie qu'ils ont ensuite dans la rue. Mais il y a des différences. Les microbes, généralement, sont quand même des enfants du quartier qui vivent plus ou moins en famille. Les enfants sorciers au Congo ont été chassés de leur famille, bien souvent, et à un âge parfois très très jeune, parfois à l'âge de 4 ou 5 ans. Ça n'existe pas au Burkina Faso.
Parce qu'on dit qu'ils apportent le mauvais œil.
Au Burkina, c'était que des adolescents, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'enfants plus jeunes que 10-12 ans, et encore, la plupart avaient plutôt de 14 à 35 ans.
Vos recherches ont démarré, Muriel Champy, il y a près de 10 ans. Entre-temps, il y a la situation sécuritaire, avec en 2021 plus d'un million de déplacés internes qui fuient les attaques djihadistes. Est-ce que ce contexte s'ajoute à des phénomènes plus structurels comme l'exode rural, Souleymane en parlait? Est-ce que la situation a empiré par rapport au début de vos recherches?
Malheureusement, moi je n'ai pas pu retourner au Burkina Faso ces dernières années. Mon employeur, ex-Marseille Université, me l'interdit.
Pour des raisons
Pour des raisons sécuritaires. Donc, je n'ai pas pu y retourner. Donc, j'aurais de la peine à l'affirmer, mais très certainement, vu le nombre de déplacés. Après, à l'époque où j'ai travaillé au Burkina Faso, c'était un pays où j'ai eu beaucoup de plaisir à vivre. Et c'est vrai que la plupart des bacchoromanes, certains venaient effectivement de familles brisées par des décès, des divorces, la pauvreté. Mais il y a aussi un certain nombre de jeunes qui, voilà, partaient se chercher comme d'autres jeunes rejoignent la ville ou les plantations de Côte d'Ivoire pour travailler. Et en ville, tombaient un peu dans les mauvais réseaux. Il y avait aussi ça, mais c'est-à-dire que tels qu'ils se présentaient, ils se présentaient comme des migrants comme les autres, des gens venus découvrir la ville, la modernité, rencontrer de nouveaux réseaux, acquérir de nouvelles compétences, en vue d'un retour en famille, une fois qu'ils auraient prouvé aussi à leur famille qu'ils étaient capables de se prendre en charge et de prendre désormais en charge leurs parents.
C'est toute l'ambiguïté. Finalement, c'est toute l'ambiguïté de ces histoires. Aucune ne ressemble à une autre, bien évidemment. Nous sommes en ligne en direct avec Seydou Zidou Emba. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous, Seydou. Vous avez vécu près de 9 ans dans la rue avant de devenir père éducateur. Vous êtes très proche de Muriel Champy, on va l'expliquer. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots ce parcours de Bakoromane qui a commencé lorsque votre père vous a placé à l'école coranique, alors que vos parents se sont séparés, se sont repartis chacun de leur côté en Côte d'Ivoire, et vous êtes resté tout seul, en rupture également avec vos frères et sœurs?
Oui, bien sûr. Okay.
C'est difficile de résumer ces 9 années. Je sais bien que ce que je vous demande en quelques minutes, c'est presque impossible.
Non, ça ira, je vais faire de mon mieux. Voilà. Sinon, effectivement, que mes parents m'avaient mis à l'école coranique. Et après, les parents se sont séparés parce qu'il y avait un problème de côté famille maternelle qui avait refusé l'union de nos deux parents. Et c'est ce qui a amené la séparation de nos parents. Et chacun est parti de son côté parce que le papa est parti en Côte d'Ivoire et il avait remarié une autre femme. Et la maman aussi a rejoint ses parents en Côte d'Ivoire parce que ses parents aussi étaient en Côte d'Ivoire. Donc, moi, j'étais à l'école coranique et mes frères se sont dispersés. Bon, chacun était avec une famille d'accueil, disons. Effectivement, bon, j'ai trop souffert à l'école coranique. J'ai vu que je ne pouvais même plus supporter la douleur que j'avais. Et je voulais rejoindre mes parents en Côte d'Ivoire parce que je ne savais pas que c'était vraiment difficile. Et pour moi, c'est comme un village à un autre, quoi. Tu rentres dans le village, tu demandes seulement où se trouve un tel, tu peux avoir les contacts. Mais bon, ce n'était pas le cas parce que c'était vraiment, vraiment difficile.
Vraiment difficile pour, bon. Pour l'adolescent que vous étiez. C'était très compliqué de retrouver le chemin de vos parents en Côte d'Ivoire.
Oui.
Vous avez fui l'autorité tyrannique de l'école coranique, mais du coup, ça veut dire que vous étiez déjà dans la rue, d'une certaine manière, via la mendicité en tant qu'enfant talibé.
Enfant talibé, bien sûr. Parce que je vivais de la mendicité quand j'étais à l'école coranique pendant 7 ans.
Oui. Je voudrais vous lire d'ailleurs le message de Dembaro qui nous a posté un message de Dakar au Sénégal. Vous le savez, le phénomène des talibés est un vrai problème. Les enfants de la rue, nous dit Dembaro, sont souvent donc des talibés, autrement dit des élèves des daras coraniques. À cause du manque de moyens de leur marabout, ils se retrouvent dans la rue. L'État doit construire des daras modernes pour éradiquer ce fléau. Est-ce que les écoles coraniques, pour vous, sont une partie du problème des enfants de la rue ou pas spécialement?
Bon, vraiment, pour moi, c'est une partie aussi. Parce que si vous allez regrouper une dizaine d'enfants en situation de rue, vous allez voir que de 7 ou 6 enfants viennent de l'école coranique. C'est bien vrai qu'il y a des différents problèmes qui amènent les enfants en situation de rue, mais vraiment, il y a aussi les talibés qui n'arrivent pas à supporter les douleurs parce que les parents amènent les enfants dans une école coranique où ils ne passent même pas à chercher à savoir comment mes enfants se portent, est-ce qu'ils sont en bonne santé, est-ce qu'il faut les nourrir de quoi, même les habits pour les donner, ils s'en foutent. C'est comme si tu as abandonné ton enfant. En tout cas, c'est le sort que j'ai suivi. Voilà, donc pour moi, c'est un côté, le talibé, en tout cas, ça amène les enfants en situation de rue, ça amène les enfants à rue.
Comment vous avez vécu cette escalade avec des vols de plus en plus dangereux jusqu'à connaître la prison, Seydou?
Bon, effectivement, ça a commencé avec la mendicité, comme je vous ai dit. De petit à petit, j'ai connu aussi des groupes de jeunes qui m'ont montré comment survivre sans la boîte.
Sans la boîte.
Oui, sans la boîte,
c'est-à-dire sans mendier, donc.
Sans la mendicité. Voilà, donc qui m'a montré comment il faut faire certains petits vols, qu'est-ce qu'il faut prendre comme des stupéfiants. Donc c'est tout ça, c'est ça quoi.
Les stupéfiants, qu'est-ce que c'était?
Bon, les stupéfiants, disons qu'il y a la dissolution qui est là, il y a le tabac, donc il y a la cigarette, il y a des comprimés, il y a plusieurs sortes de comprimés même. Voilà.
Vous avez pratiqué ce qu'on appelle le balayage, le deux doigts?
Le balayage, les deux doigts, le garaou, gara, le biri, et tout ça, j'ai participé.
Vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Saïdou?
Bon, le balayage, c'est des vols, mais c'est des petits vols. Par exemple, quelqu'un dépose ses affaires ou quelque chose comme ça, et tu arrives, tu cherches à voler, tu ne sais même pas quel est le contenu. Souvent même, ça peut être de la merde qui sont dans le sachet ou dans quelque chose comme ça. Mais comme tu ne vois pas, tu penses que c'est des bonnes choses. Donc tu peux voler ça, ça c'est du balayage. Et il y a aussi les deux doigts, comme tu as dit, les deux doigts, c'est vider le contenu d'une poche de quelqu'un.
Oui,
et ça, c'est juste de l'argent. Voilà. Et le biri, ça, c'est l'attaque à main armée. Et le gara, ça, c'est la nuit, les gens dorment, tu rentres chez les gens, et ce que tu gagnes, tu ramasses. Et ça aussi, c'est du vol.
Vous avez risqué le lynchage?
Oui, bien sûr. J'ai même beaucoup de cicatrices dans ça.
Vous avez finalement été condamné à quelques mois de prison. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez appris à lire, à écrire?
Bien sûr, parce que j'ai été emprisonné en 2001, le 14 juin 2001, que j'ai eu un problème, mais ça, c'était pas du vol. Donc, quand j'étais à la Mako, dans le quartier minier, c'est là que j'ai commencé à faire comment ça s'appelle, il y avait un maître qui vient nous enseigner à Moré. Et il y a un autre aussi qui vient nous enseigner en français. Donc c'est dans ça que j'ai commencé à lire un peu.
Mais dans le fond, on a l'impression que c'est dans la répression que vous avez pu trouver un moment pour souffler, pour vous arrêter, pour regarder votre vie. C'est comme Exactement. Ça que ça s'est passé?
Oui. Je suis à la prison et j'ai vu beaucoup de gens qui souffrent. J'ai imaginé ma vie telle qu'elle était. Et je vois que si je vais rester dans ces bêtises, je ne peux pas avoir longue vie, comme beaucoup de mes amis qui sont restés. Et vraiment, c'est ça qui m'a fait changer d'avis, parce que je ne voulais pas que ma vie coupe de cette façon.
Vous voulez dire que parmi vos amis, certains ont déjà disparu?
Beaucoup de mes amis sont disparus.
Saïdou, aujourd'hui, vous avez 32 ans?
Aujourd'hui ça doit être 38 ans.
38. Mais vous en parlez comme si c'était hier, finalement.
Bien sûr que je me rappelle de tout comme si c'était hier. Je ne peux rien oublier de ça. C'est toute ma vie qui est en jeu, parce que je ne peux pas oublier tout ce que je viens de traverser.
Muriel Champy, vous avez rencontré Saïdou il y a plusieurs années, mais il avait déjà quitté la rue depuis plusieurs années. Il était père éducateur. Comment il est devenu pour vous une personne centrale dans votre enquête d'ethnologue?
Bon, ça c'est des rencontres. Bonjour Saïdou.
Oui, bonjour Muriel, comment tu vas?
Mais ça va. Mais je sais pas. On a commencé à travailler ensemble. Il était père éducateur à ce moment-là, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et progressivement, on s'entendait bien et c'était un merveilleux collaborateur. C'est-à-dire, il m'a fait rencontrer plein de personnes et il avait cette capacité à mettre les gens à l'aise, à comprendre ce que je cherchais. Et c'était très beau parce que, voilà, comme on voit, on a eu des vies très différentes, mais on s'est vraiment compris dans le travail. Et comme si on recherchait la même chose. Et avec nos points de vue différents, on a pu avancer tous les deux.
Ouais. Mais alors finalement, Saïdou, vous êtes passé de enfant de la rue à père éducateur, à apprenti ethnologue. Comment cette étude à laquelle vous avez participé, en collaborant au travail de Muriel Champy, quel a été son impact sur votre propre vie, sur votre sur votre tentative d'essayer de recoller les morceaux de votre vie?
Vraiment, ça a été vrai plaisir pour moi. Parce que j'ai bénéficié beaucoup de l'enseignement avec Muriel Sampi. Je savais beaucoup de choses, mais je n'arrivais pas à m'encarder. Elle m'a montré la voie petit à petit, jusqu'à me faire comprendre la vie, comment il faut le comprendre. Disons que c'est Muriel qui m'a montré qui je suis, parce que avant de la rencontrer, je sais que je suis Idouemba Saïdou, je sais que je viens de tel village, mais en réalité, je ne comprenais rien parce que je connaissais beaucoup de choses, mais je n'arrivais pas à m'en sortir totalement. Et même avec elle, je l'ai dit, je ne sais pas qui je suis, c'est pas que je ne sais pas comment je m'appelle, mais en réalité, qu'est-ce que je peux savoir, faire savoir que, qui je suis?
Oui, qui je suis vraiment. C'est un questionnement universel, qui je suis vraiment, mais dans votre cas, est-ce que vous avez pu, par exemple, dépasser la colère en tant qu'enfant qui avait été abandonné par ses parents?
Ah, disons que ça a été un peu difficile avec moi, parce que tout récemment, mon papa qui m'avait abandonné en étant enfant, il est venu vivre chez moi à Ouagadougou, malgré qu'il n'a rien fait pour moi dans la vie. Et à ce moment, j'avais beaucoup de colère quand je le voyais. Je vois que c'est quelqu'un qui m'avait abandonné totalement, mais aujourd'hui, c'est moi qui dois m'occuper de lui. Et bon, par fini, quand on a été ensemble pendant un bout de temps, vraiment, bon, la colère est passée. La colère est passée.
Ça veut dire que, d'une certaine façon, vous avez renoué avec la tradition de s'occuper des anciens, même si eux-mêmes ont failli à leur mission de s'occuper de vous en tant qu'enfant?
Effectivement, c'est ce que j'ai fait jusqu'à construire une maison pour lui au village, jusqu'à aller le rendre visite jusqu'à son décès. Et jusqu'à son doigt, j'ai fait de ce que je peux pour pouvoir l'honorer.
Oui. Ça s'appelle le pardon?
Oui, oui.
Muriel Champy, l'ethnologue peut devenir aussi celui qui aide à comprendre, à réparer, à soigner des blessures de vie? Est-ce que vous aviez moins de distance, du coup, sur votre propre travail, Muriel Champy?
Alors, l'anthropologie l'autorise. En anthropologie, ma discipline, on vit avec les gens. Et en vivant avec les gens, forcément, on est dans la subjectivité. Mais cette subjectivité, elle est assumée. On sait qu'on est dans la rencontre et que c'est notre expérience, notre regard, c'est le fait d'être là qui fait qu'on peut observer certaines choses. Moi, mon but, comme je l'ai dit, effectivement, n'est pas d'aider les enfants de la rue. Moi, mon objectif, c'est de comprendre. Mais évidemment, quand on vit pendant des années avec des gens, qu'on devient amis, qu'on rencontre leur famille, qu'on entend leurs problèmes, bah forcément, on s'implique. Mais je crois, je crois que d'écouter les gens, véritablement, c'est-à-dire d'être intéressé vraiment par leur histoire, de ne pas juger, ça fait beaucoup de bien. Et ça, s'il y a une chose, moi, que je peux dire sur comment aider les enfants de la rue, c'est de ne pas les marginaliser. En fait, le problème quand on est bakoromane et qu'on fréquente que d'autres bakoromanes, comme il me disait parfois, il n'y a pas quelqu'un pour te conseiller. Et c'est à partir du moment où tu rencontres d'autres personnes, où tu as honte devant eux, et c'est à partir du moment où tu as honte de tes actions, que tu vas vouloir changer. Donc ça, c'est une chose. Et en plus, si de toute façon, on vous prend pour un petit délinquant qui a fait le choix de la rue, qui ne va jamais s'en sortir, bah autant être un délinquant, si de toute façon, on vous stigmatise. Donc je pense véritablement, si je peux donner un conseil, c'est parler à ces jeunes, écoutez-les et souvent ils n'attendent que une main, quelqu'un qui les écoute et qui permet aussi de sortir de la colère dont parlait Seydou.
Ouais, et leur donner une voix, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui chez 7 milliards de voisins. On se retrouve dans quelques instants, on donnera la parole à un réalisateur de film sur le sujet et puis aussi à Romaric, ancien bakoromane lui aussi. Quelles solutions peuvent aider les enfants de la rue à retrouver une place dans la société? Vous avez aussi bien sûr la parole si vous le souhaitez, les voisines et les voisins, au 33 7 64 45 51 41.
Hey. Pas besoin de l'homme, c'est pas tant du rap, oui. Un peu un, c'est rap avant tout, oui. Ils font semblant d'être beaux, mais au fond, négro, ils sont tous nuls. Rap game, je mérite ma place. Conjurable, les rap s'écartent. Je suis la première de la classe. Son négro, c'est juste un clash. Pas besoin de fumer de la frappe ou gratter devant le texte de rap. La musique, je lis dans les veines, c'est pourquoi ils ont tous la haine. Rien à foutre, négro, que tu me juges. Beaucoup de billets, c'est ça le but. Rap de qualité avant de m'affronter. Écrive de beaux couplets. Dans ma main, je tiens vos carrières. Celui qui fait malheur est derrière. J'ai le doctorat du rap, ces négros sont toujours tous au primaire. J'suis qualifié pour tous les nettoyer, donc supporter ça ne peut que commencer. Hey, 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 hey. Gang, gang, on est gang, gang, gang. On est gang, gang, gang. On est gang, gang, gang. On est gang. Oui, c'est vrai qu'on est gang, 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 gang. Mais peut-être qu'on est bon fond. Oui, c'est vrai qu'on est gang, 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 gang. Mais peut-être qu'on est salaud. Tâche de sperme sur le micro. Le gros chant qui te sert de perche. Le peu chaud, on le vrai dans mon studio. La phrase restera toujours de l'eau. Négro, passe-moi le bédo. Je pauvre, je jette le mégot. Moula, moula et des euros. Je passe de zéro à un héros. Dans ce game, c'est tous des embryons. Beaucoup au la barre, mais très peu sont sages. C'est comme ça, par ici, le pro d'une faute. Jamais la doigt de genou. Cette âme, ça passe ou ça passe. Passe la calage que je nique sa race. De moi tu perds ton temps, je veux tout simplement faire de l'argent, me faire remarquer pas tout là où je passe. Bentley, Ferrari, Negro et j'en passe. Le destin c'est pour les lâches, mon avenir c'est moi qui le trace. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 hommes. Karim, Beba, Wassardom, Zougaï, Ketemning, au papier, Tir, Sabani, Tiparwa, Gato, Rappé, Desis, Mamouidom, Bongo, Katarwa, Kirinda, Spoté, Hambolom, Balia, Gangado, les rappeurs là sont analphabètes. Mais beaucoup se prennent la tête. Si je dis que je suis la bête, ils se diront tous que je me la pète. Hey, 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 hey. Gang, gang, on est gang, gang, gang. On est gang, gang, gang. On est gang, gang, gang. On est
gang, Lady Sky, rappeuse burkinabé, vous écoutez 7 milliards de voisins. Nous sommes en direct sur RFI et avec Muriel Champy, anthropologue, et son étude « Faire jeunesse dans les rues de Ouagadougou ». On explore toute la diversité des parcours des enfants des rues. Alors, votre étude se passe au Burkina Faso, essentiellement d'ailleurs à Ouagadougou, mais bien évidemment, le phénomène concerne de très nombreuses villes du continent africain. Nous sommes aussi en ligne avec Seydou Zidou Emba, ancien Bakoroman, hein, puisque c'est le mot qui est employé pour littéralement dire celui qui vit dans la rue. Vous êtes devenu père éducateur, très large contributeur aussi de l'enquête de Muriel Champy. Je voudrais aussi qu'on écoute le message d'un auditeur qui a posté. Vous continuez de nous appeler, bien sûr, au 33 7 64 45 51 41. Écoutez Rodrigue Otogo.
Bonjour les voisins et les voisines. C'est la voix de Rodrigue depuis Lomé, Togo. Moi, je n'ai jamais connu la rue, mais j'ai des amis qui ont connu la rue et qui sont s'en sortis dedans. Et comment ils arrivent à s'en sortir dedans? Et comment ils ont pu réussir leur vie? C'est qu'ils sont toujours courageux et un objectif dans leur tête. Et ils s'efforcent toujours à réaliser leurs rêves. Et malgré toutes les difficultés, ils n'ont pas laissé tomber. Et ils n'ont pas perdu leur foi aussi. Il faut avoir la foi, une vision et un objectif dans ta tête.
Eh bien, nous sommes en ligne aussi avec Romaric Ouattara, 31 ans, ancien Bakoroman, aujourd'hui qui a intégré la fanfare militaire au Burkina Faso. Bonjour Romaric Ouattara.
Bonjour.
Est-ce que vous avez pu entendre le message là, de Rodrigue, ce voisin au Togo, sur le courage de ces jeunes qui vivent dans la rue et qui ne perdent jamais de vue leurs rêves?
Bon, ce que j'aimerais que bon nombre de jeunes comprennent au fait que la rue, au fait, c'est une école de vie. Dans la rue, quand tu es dans la rue, il n'y a pas papa là-bas, il n'y a pas maman là-bas, il n'y a personne. Tu es obligé de te battre soi-même pour pouvoir survivre. Ah, mais ben, parce que si tu ne te bats pas, soit tu te débrouilles pas pour pouvoir survivre, ah, ça sera compliqué. Ce n'est pas tous ceux qui viennent dans la rue qui sont au fait délinquants. Non. Beaucoup viennent dans la rue malgré eux-mêmes. Généralement, c'est la pauvreté qui amène beaucoup, bon nombre de jeunes dans la rue. D'autres, c'est pour les meilleures conditions de vie. De toutes les campagnes et pour les grandes villes, pour pouvoir se battre et bon, trouver les meilleures conditions de vie pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. D'autres, c'est la mendicité qui les envoie là-bas. D'autres aussi, bon, c'est le manque de moyens. Bon, des parents, souvent, d'autres se retrouvent dans la rue parce que les parents n'arrivent pas à les scolariser à l'école. Donc, bon, tout ça, ça rentre dans ce cadre-là.
Ouais, mais Romaric, voilà. Romaric, dans votre cas, et puis dans le cas aussi de Seydou, il y avait des problèmes dans la famille. Ce n'était pas seulement des problèmes d'argent et de pauvreté. Il y avait des conflits aussi qui font que vous vous êtes retrouvés dans la rue. Ça n'a pas été un choix pour vous, Romaric ?
Je me suis retrouvé dans la rue malgré moi-même, puisque moi, ça n'allait pas. Et chez les parents, voilà, donc tout le temps, il y avait des disputes. Et puis moi, mon papa, c'était quelqu'un qui était ex.
Il y avait une dispute avec votre belle-mère, c'est ça ?
Ouais, non, des disputes entre papa et puis maman. Et bon, personne ne voulait, au fait, nous tendre la main. Personne ne voulait nous aider. La famille de papa, papa venait d'une famille un peu nantie, maman venait un peu d'une famille nantie. Seulement que c'est papa et maman, je veux dire, ça n'allait pas.
Oui.
Et moi, j'avais vraiment cette rage vraiment d'aller à l'école. Oui, je voulais vraiment aller à l'école. Maintenant, papa n'avait pas les moyens de payer l'école. Alors, je me suis retourné vers les oncles et les tantes et vers tout le monde. Les gens m'ont retourné le dos. Et voilà. Et c'est tout ça qui m'a mené, qui m'a donné vraiment cette envie vraiment de partir à l'école. Je suis allé
vous parliez, vous, Romaric, vous disiez la rue, c'est aussi une école de la rue, de la vie, hein, mais c'est,
oui,
une école,
c'est
une école de la vie, mais qui est dangereuse. À quel moment vous avez eu envie de retourner à l'école, puisque vous avez quand même ensuite remonté la pente, hein, si on peut dire, avec un BEPC, vous avez fait le concours de la police, vous êtes énormément battu pour sortir aussi de la rue.
Je tenais également à remercier certaines structures. Et il y a des structures ici en Afrique qui accompagnent vraiment ces enfants déshérités de la rue. Voilà, tels que le SAMU social et bon, l'action sociale. Puisque moi, j'ai eu la chance de repartir à l'école grâce à une structure que je salue énormément, et le SAMU social. C'est le SAMU social qui m'a récupéré de la rue. Et quand je suis arrivé au SAMU social, on m'a demandé à savoir, mais qu'est-ce qui m'a amené au fait, qu'est-ce qui m'a poussé au fait à venir me retrouver dans cette situation. Alors je leur ai expliqué au fait, et les conditions qui m'ont amené au fait à venir me retrouver dans ce lieu.
Mais Romaric, voilà. Y a beaucoup de gens, notamment des éducateurs aussi, qui disent que les enfants de la rue, au bout de quelques années, ils ne veulent plus ou ils ne peuvent plus quitter la rue. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Ah, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que c'est pas tout le monde, c'est pas tous les enfants de la rue qui ont un peu les mêmes concepts. Non, il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent dans la rue, ce que beaucoup de gens oublient. Voilà.
Muriel Champy, est-ce que ces jeunes qui vivent dans la rue, ces adolescents, des garçons, hein, d'ailleurs on n'a pas encore eu le temps de le dire, mais sont, le phénomène des bacoromanes sont des garçons d'abord. Est-ce que quand on est dans la survie au jour le jour, heure après heure, on peut garder un objectif de vie ?
Enfin, on a toujours un objectif. Romaric parlait du rêve. Non, ça c'était
l'auditeur Rodrigue.
Et Romaric parlait de la rage. Donc l'objectif, il est là. Après, la question, c'est comment l'atteindre. Et en fait, l'une des difficultés, Romaric, par exemple, il a toujours voulu à l'école. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les bacoromanes. Mais lui, c'était vraiment son obsession. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les jeunes veulent réussir dans la vie. Après, c'est comment. Et en fait, la difficulté, c'est que il y a pas toujours l'État faillit quand même en partie à sa mission. Lorsque l'alternative, c'est d'être dans des classes avec 100 élèves où les conditions sont pas réunies pour bien apprendre.
Ou la répression pour les enfants de la rue qui commettent des vols.
Mais je voulais quand même parler de l'école, c'est-à-dire que en fait, il y a des jeunes qui disent. Moi, j'ai arrêté l'école parce que je savais que de toute façon, à partir du collège, mes parents n'auraient plus les moyens de payer ma scolarité. Autant aller me chercher tout de suite. Et après, effectivement, l'État ne passe que par la répression. alors qu'il faudrait passer davantage par l'accompagnement. L'une des difficultés, c'est que quand on a passé plusieurs années dans la rue à se prendre en charge soi-même, ce que les associations proposent, c'est en fait un retour à l'enfance, c'est-à-dire être apprenti, ne pas gagner d'argent, et ne pas être autonome. Et ça, c'est très difficile. Et c'est là, peut-être, qu'il faudrait réfléchir à des alternatives.
Justement, parce que... alors à ce propos, je vous lis deux messages. Bouna, qui est enseignant à Nouakchott, nous dit « Moi, j'ai souvent, en tant qu'enseignant, échoué avec ses enfants, trop violents, trop souvent absents. Ça exigeait quelque chose que je n'avais pas. Ces jeunes sont parfois devenus des hommes responsables et respectés. » Boubacar, qui est à Bamako, nous dit « Les enfants des rues ont besoin de psychologues. » Seydou Zidouemba, est-ce qu'il y a un problème d'expertise, un problème d'offre de solutions pour ces jeunes que l'on voudrait remettre dans l'enfance, or on ne peut plus revenir en arrière, Seydou ?
Bon, je dirais que les enfants, ils ont besoin vraiment, ce que moi j'aimerais que les gens sachent, il faut, ce que comme Muriel a dit, il ne faut jamais négliger les enfants là. Parce que le fait qu'on les néglige, qui fait que les enfants n'ont pas confiance à quelqu'un. Et pourtant, les enfants ont besoin de quelqu'un qui va les écouter, qui peut les entendre, comme ce que Muriel vous a informé. Parce que ces gens-là, ils subissent des traumatisations tous les jours, parce que tout le monde les regarde comme des vagabonds, des voleurs, etc., etc. Donc ça fait que une fois que tu n'arrives pas à l'approcher pour comprendre son problème, c'est tout un problème. Tu ne peux jamais critiquer quelqu'un et puis vouloir lui dire de faire ceci et puis il va accepter. Voilà, il faut que les gens arrêtent de négliger les gens, à juger les gens. Et on ne regarde pas quelqu'un comme ça et puis le juger. Parce que tout le monde qui sont sur cette terre-là, ça qui est venu avec une mission spéciale. Personne n'a la mission de l'autre. Et pourtant, ils sont ensemble. Voilà, donc les enfants de la rue aussi, c'est pareil. Il faut les comprendre, il faut les écouter, il faut essayer de chercher à savoir qu'est-ce que je peux faire pour cet enfant. Donc, c'est tout ça qui peut contribuer à faire sortir beaucoup des enfants en situation de rue. Parce que moi, je me disais que s'il n'y avait pas Thiogo, je n'allais pas être père éducateur. S'il n'y avait pas Thiogo au temps de Médecins Sans Frontières qui allait me faire sortir, qui allait me faire sortir? Oui. Parce que j'étais devenu adulte, je ne savais rien faire d'autre, si ce n'est pas faire des bêtises, voler ou vendre la drogue, je ne savais rien du tout. Mais grâce à Thiogo, je sais ce que je sais parce que je sais faire la couture, je sais faire la pré-éducation, je sais faire l'animation et encore Muriel a renforcé ma connaissance, mon expérience. Bon, c'est suite à tout ça qu'elle arrive à renforcer tout ça.
Donc, et c'est ça que vous apportez. Je sais que la vie n'est pas simple aujourd'hui. Hein. Vous êtes obligé d'effectuer plusieurs boulots, notamment celui de père éducateur. Mais quand vous êtes éducateur avec des bacoromanes, c'est ça que vous parvenez à leur apporter, que ne peuvent pas apporter d'autres personnes. C'est cette écoute.
Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que si je suis avec eux, c'est comme si je suis avec mes frères. Je les écoute attentivement et je fais tout ce que je peux pour pour faire ce que je peux faire pour les faire s'en sortir. Parce que moi, je ne peux pas les aider en tant que tel, mais grâce à Thiogo, aujourd'hui, moi, je suis l'œil et l'oreille de Thiogo et je rapporte tout ce que j'entends et tout ce qu'on peut faire et je les rapporte. Donc, moi, en tout cas, j'arrive à les écouter attentivement et à apporter les informations au niveau des services pour qu'ils puissent faire quelque chose pour ces enfants.
Je voudrais qu'on donne la parole à un réalisateur de films et documentaires. Bonjour Simplice Ganou. Bonjour Simplice Ganou, vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins. Est-ce que vous nous entendez? On a un petit problème de ligne téléphonique, semble-t-il, avec Simplice Ganou, qui a réalisé plusieurs films, Le Corot du Bakoro, Les Naufragés du Faso, Bakoromane, qui a travaillé aussi comme éducateur avec des enfants des rues. Est-ce qu'on a Simplice Ganou au téléphone? Simplice Ganou, vous nous entendez?
Oui, je vous entends très bien.
Vous avez entendu le début de l'émission. Vous avez été à la fois éducateur et puis vous avez cherché à restituer aussi les parcours de ces jeunes. J'avais envie de vous poser la question, est-ce que c'est vos films, vos documentaires ont été vus par des décideurs politiques?
Ils ont été vus dans des festivals, je crois, peut-être certainement par des décideurs politiques. Il y en a qui sont passés sur des chaînes de télé. Je ne sais pas si la question c'est pour dire que est-ce qu'ils ont décidé suite à ça de faire quelque chose.
Ah ben je vous laisse vous poser la question vous-même, je ne sais pas, parce que je sais que vous habitez la périphérie de Ouagadougou à une vingtaine de kilomètres hein, de la capitale, que le phénomène évidemment est loin de se résorber de ces enfants des rues du fait de la situation sécuritaire du pays.
Oui, mais évidemment, parce que déjà, là, ce n'est plus que les enfants dans la rue. On parle de personnes déplacées oui. internes, donc c'est des familles dans la rue, quoi. Et forcément, le phénomène a éclaté avec... les enfants ont dû chacun se chercher. Les plus chanceux font des petits boulots. Mais ce qu'on remarque déjà à Ouaga, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants avec des boîtes à la main, quoi. C'est soit des talibés, soit des bakoroban.
Oui, les boîtes de conserve
donc,
avec la ficelle à l'épaule.
Ça prend de l'ampleur.
Comment aider les pouvoirs publics à inclure les bakoroban dans les priorités de l'éducation pour tous, de la prise en charge de l'enfance?
Ben, comment les aider? Moi, à mon niveau, je suis cinéaste, donc je témoigne des expériences que ces jeunes m'ont permis, leur réalité, afin que ensemble la société réfléchisse dessus, parce que le cinéma que je fais, c'est du cinéma documentaire, c'est un miroir de la société, et très souvent, on n'aime pas se mirer, quoi. Parce qu'on a la réalité qui nous vient en face et il n'y a pas que les enfants en même temps. Il y a tellement de problèmes, donc on évite de se mirer, j'ai l'impression.
Comment expliquer qu'on ne voit pas plus d'anciens jeunes de la rue devenir des élus locaux qui participent à la vie communautaire, à la citoyenneté? Muriel Champy, ce sont des personnes qui auraient énormément à apporter.
Bien sûr, comme on l'entend aujourd'hui, je pense très bien. Après, il faut des codes, déjà. Quand on n'est pas allé à l'école, par exemple, pour certains, ou qu'on a pris beaucoup de retard sur sa scolarité, c'est difficile à rattraper. Et puis, c'est une question de réseau, hein, quand même, pour être entendu. Il faut être connecté, d'une certaine manière, aux puissants, au sens large. Et donc, malheureusement, on ne les écoute pas suffisamment. Et c'est pour ça que j'ai plaisir aujourd'hui à entendre ces témoignages sur RFI.
Oui, et surtout quand on les écoute, quand on vous écoute, hein, Seydou Zidouemba, Romaric Ouattara, non seulement vous avez parfaitement les codes pour parler à la radio en direct, mais surtout nous apprendre énormément de choses hein, pour mieux comprendre les dysfonctionnements d'une société. Seydou Zidouemba, aujourd'hui, vous avez 3 enfants, 13 ans, 9 ans, 5 ans. Qu'est-ce qu'ils savent de votre histoire, Seydou?
Bon, disons que ils ne savent rien, mais bientôt il saura. Parce que mon premier, bon, il n'a pas 13, il a 15 ans, parce que c'est le 2007. Hein.
Ah, pardon.
Voilà, donc...
Et vous lui avez jamais rien dit à 15 ans?
Non, pas du tout, parce que je me dis que si je commence à le parler, il ne va rien comprendre, mais mieux vaut le laisser un peu de temps. Quand il va arriver à 18, à 16, là, on peut commencer à le montrer un peu. Mais grâce à vous, il a commencé à comprendre, hein, parce que la première fois que vous m'avez contacté, j'étais à la maison, il était à côté. Donc, du coup, quand j'ai fini de communiquer avec vous, il m'a demandé, mais « Ah, papa !» Donc, vous avez eu tous ces problèmes-là. Et en tout cas, j'ai essayé de résumer un peu pour lui, pour qu'il commence à comprendre un peu.
Je sais que ça a été difficile au téléphone que vous nous expliquiez que vous aviez volé, que vous aviez fait de la prison. C'était compliqué de raconter ça alors que votre fils n'était pas très loin. Mais finalement, aujourd'hui, est-ce que ça vous rend plus fort dans votre rôle de père?
Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que tout ce que j'ai suivi en étant enfant, je n'ai pas choisi. Je n'ai rien choisi de devenir un délinquant ou quel qui que ce soit. C'est mes parents qui m'ont mis dans cette situation.
Et pour vos enfants, pour vos enfants, vous avez peur parfois?
Mais pour mes enfants, j'ai peur de ne pas arriver à faire tout ce que je dois faire en tant qu'héros de père. Parce qu'aujourd'hui, je cherche des moyens de gauche à droite. C'est pour le mettre à l'école, pour le faire comprendre beaucoup de choses dans la vie que je n'ai pas eu. Voilà, donc seulement si j'échoue, C'est ça que j'appelle d'échouer. J'appelle d'échouer à élever mes enfants proprement comme ce que je veux, parce que c'est parce que je n'ai pas eu un tel chose que je suis devenu un jeune en situation de rue. Mais je ne veux pas que mes enfants deviennent ces gens des enfants. Donc je demande de gauche à droite pour pouvoir mieux s'occuper d'eux.
Merci à vous en tout cas, Seydou Zidou Emba, d'avoir été en direct avec nous. Merci à Romaric Ouattara aussi, ancien Bakoroman. Merci à Simplice Ganou, cinéaste, documentaire. Et merci à vous beaucoup, Muriel Champy. Votre livre, c'est « Faire jeunesse dans les rues de Ouagadougou » et c'est publié à la Société d'ethnologie Paris-Nanterre 2022. Merci d'être passé dans le studio des 7 milliards de voisins. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons éducation et en particulier de ces familles explosives où les disputes sont permanentes entre les membres de la famille. Comment prévenir, comment désamorcer les conflits pour apaiser les relations familiales? Bien évidemment, vous aurez la parole pour témoigner, pour poser vos questions aussi à nos invités. 33 7 64 45 51 41. Dans quelques instants, ce sera le journal, mais on se quitte évidemment aujourd'hui avec Bob Marley. C'est l'anniversaire de sa mort. Nous sommes le 11 mai. Milliards de voisins, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même endroit, avec bien sûr toute l'équipe, Juliette Brou, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Et d'ici là, vous réécoutez toutes nos émissions disponibles quand vous voulez, en podcast, sur les plateformes de téléchargement.
7 milliards de voisins, c'est fini.